Vous écoutez RTL, première radio de France. La curiosité est un vilain défaut.
Le gouvernement de la République est confié à un empereur qui prend le titre d'empereur des Français.
J'avais beaucoup lu à l'école avant de passer le pont d'Arcole.
Pour la gloire comme pour le bonheur de la République, Napoléon, empereur des Français.
J'accepte le titre que vous croyez utile à la gloire de la nation.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
J'avais une volonté molle.
C'est une histoire singulière que l'on va raconter maintenant sur RTL, l'histoire d'une famille corse qui a dominé l'Europe, l'histoire des Bonaparte. Bonsoir Thierry Lenz.
Bonsoir.
Bonsoir Pierre Branda, vous êtes historien, bonsoir, respectivement directeur et chef du service patrimoine de la Fondation Napoléon. Et vous avez participé au dossier que le magazine Historia consacre au clan Bonaparte, dossier réalisé en partenariat avec RTL pour bien comprendre, à poser un peu le décor, à quel point cette famille a dominé la France et l'Europe à son apogée. Combien comptait-elle, cette famille Bonaparte, de têtes couronnées ? L'empereur, pour commencer.
L'empereur, le roi d'Espagne, le roi de Naples, enfin la reine de Naples plutôt, la grande-duchesse de Toscane, le roi de Hollande et le roi de Westphalie. Donc on en est à 5.
Ah, c'est une belle famille.
Oui, pratiquement tout le monde était sur un trône.
Ouais. Et c'est Napoléon, il s'est couronné lui-même et il a offert le pouvoir aux autres, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Enfin, quand on dit qu'il s'est couronné lui-même, on vous fait référence au tableau, d'ailleurs, où il ne se couronne pas lui-même, mais où il était prévu dans la première version du tableau qu'il se couronne lui-même.
Donc le tableau de David.
En fait, on oublie toujours, et une fois de plus, que Napoléon est devenu empereur non pas le jour de son sacre, mais le 18 mai précédent par un vote du Sénat, et lequel vote du Sénat a été validé par un plébiscite populaire pendant l'été. Le sacre était une espèce de cérémonie supplémentaire qui avait été organisée à ce moment-là.
C'est une famille, les Bonaparte, qui aurait pu rester anonyme, une famille corse comme tant d'autres. Ils étaient d'où origine? Ils étaient d'origine d'où exactement en Corse, les Bonaparte ?
D'Ajaccio. C'est la famille Bonaparte s'est installée à Ajaccio à partir du XVIe siècle et est restée claquemurée dans les murailles de cette cité, pratiquement jusqu'à l'arrivée de Paoli et la Révolution Corse.
Vous nous décrivez un peu cette famille, les parents, l'ordre d'apparition des enfants ?
Alors, vous avez d'abord le père, Charles, qui est le fils unique, c'est le descendant des Bonaparte. Tous les Bonaparte se reposent sur lui. Il va avoir un premier fils, Joseph, en 1768, suivra Napoléon en 1769. Et puis, trois enfants morts-nés avant qu'arrive Lucien, en 75. Puis, Elisa, en 77. Ensuite, viendra Louis. Puis Pauline, la Vénus de Canova, Caroline, celle qui épousera Murat, qui deviendra donc reine de Naples, et enfin Jérôme, le petit dernier, 1784, qui naît juste avant la mort de son père, puisque son père meurt 3 mois après sa naissance.
Donc 8 frères et sœurs. Est-ce que les Bonaparte, avant Napoléon, avant tout ça, avant la prise de pouvoir, est-ce que quand ils sont encore en Corse, est-ce qu'ils sont riches ?
Alors, ça n'est pas, contrairement à ce qu'on dit habituellement, une famille pauvre. On les a souvent présentés comme ça. Enfin, la légende l'a voulu. En fait, c'est une des familles les plus riches d'Ajaccio. C'est probablement la deuxième famille d'Ajaccio, après les Peraldi. Et donc, ils ont des terres. Ils ont le père, Charles, qu'on a souvent décrit comme un jouisseur, un grand voyageur, etc. Il est en fait un homme qui travaille. Il a une profession juridique, avoué, juge au tribunal d'Ajaccio. Ils ont donc des revenus. Ils peuvent entretenir une domestique. Ils ont une maison qu'ils ne vont cesser d'agrandir à Ajaccio. Ils possèdent des terres, ils possèdent des moulins. Donc, ça n'est pas. Ce sont, par rapport aux aristocrates du continent, évidemment, ce sont de petites gens, mais pour la Corse, ce sont des personnes en vue parce que riches. Et donc, parce que riches, ils vont aussi avoir un rôle politique très important au moment de la Révolution en Corse.
Et alors, donc, ça, c'est la première bascule dans le destin de ce clan, de cette famille Bonaparte, c'est la Révolution française, parce qu'ils choisissent. Quel bord et avec quelles conséquences ?
La question est simple, la réponse est très compliquée. Alors, question simple, réponse simple. Ils vont finir par choisir le camp de la Révolution française, c'est-à-dire, on va dire, non pas le camp des amis de Paoli, qui finalement, après beaucoup d'hésitations, Paoli va, abandonner le camp de la Révolution française. D'ailleurs, pas pour des raisons d'indépendantisme corse, mais surtout parce qu'il est choqué par l'exécution du roi. Et donc là, les frères Bonaparte, alors à des niveaux différents, à des rythmes différents, va opter pour la Révolution française du continent, car il considère que la liberté de la Corse ne pourra être assurée que dans une nation libre, la France continentale.
Et du coup, ils vont devoir fuir la Corse ?
Il fuit la Corse, alors pour des raisons qui touchent à la fois à la politique, aux idées de la Révolution, mais aussi, et c'est là qu'on commence à parler du sujet qui nous intéresse, à cause de la division des clans. En réalité, la Corse, mais je veux dire la Corse, le monde entier est divisé en clans, mais enfin c'est beaucoup plus net en Corse. Il y a le Nord, il y a le Sud. Dans le Sud, il y a les partisans de la Révolution française, il y a les partisans d'un pré-indépendantisme corse. Et donc tous ces gens-là vont former des môles, et les alliances à un moment donné vont être défavorables aux Bonaparte. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont être obligés de quitter la Corse, parce que c'est le camp réactionnaire, il faut bien le dire comme ça, plutôt proche de Paoli, mais Paoli est complètement hors-jeu, c'est devenu un vieux monsieur à ce moment-là. C'est ce clan-là qui remporte la bataille politique sur l'île, et donc les Bonaparte doivent s'en aller.
Et c'est la chance de leur vie, en fait. D'être comme ça, chassés de Corse. Sinon, en fait, s'ils y étaient restés...
Ils seraient toujours à Ajaccio.
Oui, comme a dit une lointaine descendante, nous serions peut-être toujours à vendre sur les marchés d'Ajaccio.
Hein. président du Conseil Général.
Qui sait. Et en tout cas, c'est la famille qui va permettre aussi à Napoléon de prendre le pouvoir. On raconte ça tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
On découvre l'histoire d'une famille, d'un clan qui a dominé l'Europe, l'histoire des Bonaparte. Nous sommes avec Thierry Lenz et Pierre Branda, membres de la Fondation Bonaparte, qui signent une série d'articles pour le magazine Historia. C'est en partenariat avec RTL. Alors les Bonaparte, 8 frères et sœurs dans la France de la Révolution. Napoléon, c'est celui qui se fait une réputation militaire. C'est un général qui compte, le général qui compte.
Oui, c'est le général qui compte. Enfin, il compte à partir de 1796. Il se révèle de manière absolument extraordinaire et soudaine dans cette campagne où il bouscule tout le monde. Et en fait, la Révolution va enfin connaître ses véritables pages de gloire avec lui. Et c'est un homme qui naît à la guerre, mais il naît non seulement à la guerre, il naît à la politique, il naît à la communication, il naît à l'administration.
Il a tous les talents ?
Il a absolument déjà tous les talents en lui. Et c'est très surprenant parce que, a priori, ce n'était pas ce qu'on forcément attendait de lui. Il surprend tout le monde, il surprend le gouvernement, ses ennemis, c'est une véritable révolution, une seconde révolution.
Est-ce qu'il surprend ses frères et sœurs aussi, tiens, à ce moment-là ?
La question des frères et sœurs est un peu... Enfin, Pierre vous a donné tout à l'heure les dates, et on voit bien qu'il y a des groupes différents dans les frères et sœurs. Et le premier groupe, c'est le groupe Joseph-Napoléon. Ils sont les aînés, incontestablement, et avant qu'arrivent les suivants, eux seront déjà partis sur le continent pour faire leurs études. Donc en fait, les deux seuls vrais frères de cette fratrie, en quelque sorte, sont Joseph et Napoléon. Or, avant que Napoléon ne se révèle en 96, au moment de la campagne d'Italie, Joseph a lui déjà une très grande carrière derrière lui, notamment une carrière politique en Corse. Il a été président du district d'Ajaccio, il a été membre du directoire du Conseil Général, il a obtenu des postes de commissaire des guerres sur le continent, et commissaire des guerres, ça n'est pas rien, c'est 145 personnes pour l'ensemble de l'armée qui font les commandes, qui passent les marchés, qui règlent les factures, qui encaissent l'argent, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc il a une fortune importante, il a épousé une très très riche Marseillaise, Julie Clary, et donc il a, comme lui, il n'a pas la même ambition, la même virtu, on va dire, que Napoléon.
Donc il n'est pas jaloux de Napoléon.
Il y a sûrement eu des moments de jalousie entre eux. Ils sont quand même plutôt à rechercher du côté de Napoléon, parce que Napoléon est un homme vif, c'est un homme qui va vite, c'est un homme qui décide. Joseph, c'est plutôt un homme qui réfléchit, c'est plutôt un homme qui lit, c'est plutôt un homme qui aime la politique classique, c'est-à-dire les combinations, etc.
Et puis il y a un autre frère qui va jouer un rôle important pour finalement porter Napoléon au pouvoir, c'est Lucien. Donc il est plus jeune que Napoléon. Vous signez, Pierre Branda, un article dans le magazine Historia, vous dites le quart d'heure de gloire de Lucien, c'est quoi son quart d'heure de gloire?
Oui, là, c'est lui qui l'a inventé par Andy Warhol, en fait, le quart d'heure de gloire de Lucien. Lucien, c'est le tribun de la famille, il est en verve, c'est un politique, mais en vérité, au moment du coup d'État, il faut un tribun comme ça, capable de renverser des assemblées, et Lucien est cet homme-là, pas Napoléon, qui n'est pas doué pour cela, ou les autres frères, et donc, à ce moment-là, il fait basculer les chambres, et il fait basculer le coup d'État en faveur de son frère.
1799. Hein.
Voilà, 1799. Mais en vérité, ensuite, c'est un piètre administrateur, un mauvais ambassadeur et quelqu'un qui finalement n'a pas un grand sens de l'État, mais qui sait très très bien remplir ses poches.
Et Napoléon va lui être reconnaissant à Lucien, son frère ?
Alors, reconnaissant, oui, au départ, puisqu'il le nomme ministre de l'Intérieur, ouais. Tout de même, hein, c'est le seul frère hein, qui sera nommé ministre. Et bon, mais devant, si je puis dire, son peu de résultats, il ne pourra que s'en séparer. D'ailleurs, ils se disputeront beaucoup. Et finalement, Lucien ambitionnait la place de son frère.
Hein. Napoléon, bon, on ne va pas raconter toutes les étapes du pouvoir, mais plus il devient puissant, plus il place ses frères et sœurs à des postes importants. C'est quoi ? On est dans une tradition corse d'une certaine façon, ou simplement dans une logique d'un empereur qui veut des gens de confiance autour de lui ?
Je vous dirais que les historiens ne s'étonnent absolument pas de ce qui se passe à ce moment-là, parce que c'est de tout temps. Aujourd'hui, nous avons le même phénomène. On place des amis, on place son mari, secrétaire général de l'Élysée est marié avec la ministre de l'Éducation.
C'est ce qu'on appelle le népotisme, c'est ça ouais.
Non, mais je veux dire, c'est normal. Ouais. Vous-même, si demain, vous avez une grande sœur ou un petit frère, et que vous pouvez l'aider dans sa carrière, vous allez le faire. Alors, il se trouve que là, les carrières sont royales, impériales et royales, mais...
Et donc, ça se voit.
Sous Louis XIV, vous ouvrez un placard à Versailles, vous trouvez un Colbert. Ils sont partout.
Les Bonaparte qui vont effectivement, évidemment, profiter du règne de Napoléon pour s'enrichir, la liste de leurs demeures parisiennes est impressionnante, à commencer par un petit palais acheté par Caroline
ah oui
et son mari Murat. Adresse.
C'est où ça ?
55 rue du Faubourg
Saint-Honoré. Ça
me dit quelque chose ? Ben oui, c'est le palais de l'Élysée.
Vous écoutez RTL.
RTL. À l'ombre des oliviers, il disait que l'Italie ne serait jamais conquise.
Préparez-vous à l'attaque !
La curiosité est un vilain défaut.
Dans la vallée des pharaons, il disait que l'Égypte ne serait jamais vaincue. Désormais, ils ne disent plus rien.
Jusqu'à 22h.
Je suis Napoléon. Je suis empereur.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Napoléon Bonaparte, l'empereur qui a dominé l'Europe, réformé la France sous les projecteurs de l'histoire depuis plus de deux siècles. Mais c'est toute la famille qui nous passionne ce soir sur RTL, grâce aux historiens Thierry Lenz et Pierre Binda. On vous raconte comment cette famille corse a dominé la France et l'Europe. C'est un dossier du magazine Historia, je le rappelle, en partenariat avec RTL. On va parler de l'enrichissement familial, parce que c'est l'un des éléments de cette série d'articles passionnants. La montée en puissance de Napoléon, elle s'accompagne d'un enrichissement. Pour en prendre conscience, il faut juste lister les palais parisiens qu'ils ont possédés à un moment ou à un autre. Vous pouvez nous en citer quelques-uns ?
Évidemment, le premier, vous avez fait allusion, l'Élysée, hein, acheté par Caroline, aménagé par Caroline. D'ailleurs, la configuration actuelle quasiment est celle de Caroline, en fait.
Un bon investissement.
Voilà, le président de la République vit chez les Murat, en fait, donc aujourd'hui. Et après, pour Pauline, vous avez l'hôtel de Charot, Louis avait le sien, Joseph a eu le domaine de Mortefontaine. Enfin, il y a eu
l'hôtel de Brienne, qui est le siège du ministre, enfin, la résidence du ministre de la Défense
Lucien,
aujourd'hui.
Lucien, puis Madame Mère. Donc la mère de l'empereur ouais. s'est installée à l'hôtel de Brienne. Il y a d'ailleurs le décor et le bureau du directeur de cabinet, c'est le bureau de Lucien Bonaparte qui n'a pas changé. Et il reste dans les appartements privés, à ce qu'on nous a dit, sans nous les montrer, des pièces qui sont avec le mobilier et la décoration de Madame Mère.
C'est drôle. Alors vous avez cité, je crois, l'hôtel de Charros, c'est ça. Il y a aussi l'hôtel de Villeroy. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, ils appartiennent à qui ces bâtiments ? Ce sont deux ambassades.
Assez souvent à la République ou des ambassades. L'ambassade d'Angleterre ouais. est installée chez Pauline Bonaparte.
Ouais. Et il y a l'ambassade d'Allemagne. Donc les ennemis d'hier possèdent les palais des Bonaparte. Ouais, c'est amusant.
L'ambassade d'Allemagne, d'ailleurs, il faut signaler que c'est un des hôtels les mieux conservés dans son jus, si l'on peut dire, puisque l'Allemagne a investi plusieurs dizaines de millions pour une restauration il y a quelques années. Et bon, c'est ouvert aux journées du patrimoine. On ne peut vraiment que conseiller d'y aller, parce que c'est vraiment comme ça qu'était meublé et décoré l'hôtel d'un grand personnage sous le Consulat et l'Empire.
Donc tous les Bonaparte étaient bien logés. Est-ce qu'ils se réunissaient ? Est-ce que Napoléon, par exemple, organisait des dîners pour profiter de sa famille ?
Oui, tous les dimanches, il y avait un dîner de famille avec cérémonie, avec les places. En fait, tout était où ils les réunissaient quand ils étaient là. Bon, après, quand ils sont partis sur leur trône, c'était moins évident. Mais effectivement, il y avait un dîner de famille avec la mère, madame mère qui était là. Évidemment, les Beauharnais, toute la famille impériale réunie. Non sans quelques disputes, parce que parfois, il y avait des questions d'étiquette, des questions de placement, où Napoléon s'amusait un petit peu avec tout cela et s'amusait bien à les énerver. En fait,
ça veut dire, qu'est-ce qu'il faisait, par exemple?
Souvent, il plaçait les Beauharnais avant ses sœurs, donc ce qui, comme ça, c'était une manière de dire, si vous voulez, bon, vous êtes mon clan, mais je garde une indépendance vis-à-vis de vous. Hein. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes la famille impériale, mais attention. Hein.
Ah oui, c'est stratégique aussi, ce dîner. Alors, c'était pas que du bon temps à passer ensemble.
Non.
Avec Napoléon, rien n'est jamais gratuit. C'est probablement un homme qui n'avait pas de loisirs. C'est-à-dire que même lorsqu'il allait au théâtre, d'abord, il s'endormait souvent lourdement. Simplement pour qu'on dise l'empereur était au théâtre. Hein. C'est un homme d'État très très particulier qu'on ne peut pas analyser avec nos sentiments domestiques, parce qu'il n'est vraiment pas fait comme nous. Quoi. C'est-à-dire voilà, quelqu'un qui travaille du soir au matin, ce qui n'était pas fréquent à l'époque chez les gouvernants, hein, puisqu'il y avait les administrations, etc., qui géraient les choses. Lui, il travaille tout le temps. Et donc on se dit, mais il ne dort jamais, la lumière est toujours allumée dans son cabinet aux Tuileries. Ben, en fait, il dort au théâtre, il dort au conseil, quand il y a une communication au conseil d'État qui lui déplaît, paf, il s'endort 5 minutes, etc.
C'est le sommeil flash réparateur.
Il ne plaisante avec rien, et encore moins avec le protocole, et moins avec, on va dire, les prétentions de certains membres de sa famille, parce que si vous voulez, ils ont cru qu'ils étaient vraiment de vieilles dynasties à certains moments.
Mais qui attendaient tous un poste, un royaume, comment ils réagissaient quand ça leur passait sous le nez?
Ouais, ils étaient furieux, surtout que Napoléon a fait passer devant et il avait adopté les enfants de Joséphine, donc ce qui a déplu aux Bonaparte. Hein. Il y a eu cet affrontement entre Beauharnais et Bonaparte, ce serait trop long de développer, mais il les a fait passer devant. Eugène a été vice-roi d'Italie avant que les Bonaparte aient quoi que ce soit. Puis ça a été quand même le tour de Joseph, parce que c'était l'aîné. Mais à un moment, ceux qui attendaient, c'était Caroline, par exemple, et Murat. Quand Murat a su qu'il n'était pas roi d'Espagne, ce qu'il espérait, il en a fait une jaunisse. Hein. Il a été malade pendant 3 semaines. Il a fallu le remplacer à la tête de l'armée, véritablement malade. Caroline, on a presque perdu ses cheveux. Enfin, ils étaient effectivement accros au pouvoir, dans l'esprit où effectivement le pouvoir d'abord français puis européen ne pouvait que leur revenir et tout leur appartenait en fait.
Alors cette hiérarchie familiale, qui est aussi l'ordre protocolaire de l'Empire d'une certaine façon, on peut le détailler en regardant le tableau de David dont vous parliez tout à l'heure, qu'on appelle le sacre de Napoléon, alors que c'est pas vraiment le sacre de Napoléon, c'est ça?
C'est plutôt le couronnement
de Joséphine. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce que... En fait, il a réécrit l'histoire en commandant ce tableau, Napoléon.
Oui, alors, le tableau intervient à un moment très particulier de l'histoire de Napoléon, au moment du sacre. Il faut définir qui va succéder à Napoléon s'il n'a pas d'enfant et qu'il meurt prématurément. Dans la Constitution, ceux qui doivent lui succéder, c'est Joseph Bonaparte, son frère aîné, puis Louis Bonaparte. Mais Napoléon a derrière la tête une troisième idée, qui est d'adopter le fils, alors ça va devenir compliqué, du même Louis Bonaparte qu'il a eu avec Hortense de Beauharnais. Donc un Beauharnais et un Bonaparte, ce qui fait, comme lui ne peut pas avoir d'enfant avec sa Joséphine de Beauharnais, appelons-la comme ça, voilà. Donc ce petit enfant, qui est né en 1802, donc c'est vraiment un bambin, il va être placé sur ordre de Napoléon, au centre du tableau du sacre. Alors que les deux héritiers constitutionnels, Joseph et Louis, sont rejetés complètement à gauche du tableau. Ouais. Et c'est un signe politique que Napoléon va adresser. Alors, il y a des tas d'autres choses à la fois amusantes et fausses sur le tableau. Par exemple, les sœurs Bonaparte avaient refusé de porter la traîne de Joséphine. Elles l'ont effectivement portée. On a dit qu'elles la pinçaient pendant la cérémonie.
Pour essayer de la
mais
faire tomber,
sur le tableau,
c'est ça ?
Sur le tableau, on a quand même enlevé les sœurs. Ce sont des dames d'honneur qui portent la traîne. Madame Mère est dans la tribune.
Alors justement, Madame Mère, c'est la Laetitia, la maman de Napoléon. Elle est présente sur ce tableau alors qu'elle n'était pas là. On va vous expliquer pourquoi il y avait des bisbilles chez les Bonaparte aussi. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Le Le clan Bonaparte, comment une famille dirige, met la main sur la France et l'Europe, c'est le thème du magazine Historia de janvier en partenariat avec RTL. Et pour nous éclairer sur cette famille corse, pas comme les autres, deux historiens, respectivement directeur et chef du patrimoine de la Fondation Bonaparte, Thierry Lenz et Pierre Branda. On a beaucoup parlé des frères et des sœurs, on a parlé aussi du père de Napoléon, mais il y a la mère, cette fameuse Madame Mère, quel nom, ça en jette hein, quand même. Elle s'appelle Laetitia, elle est née Ramolino. Est-ce qu'elle a eu de l'influence sur son fils, sur Napoléon ?
Alors c'est la figure tutélaire hein, de la famille. Ils la craignent tous, y compris Napoléon. Hein. Un jour, pour une simple anecdote, un jour, Napoléon jouait au réversi avec elle et Napoléon a adoré tricher au jeu. Madame l'a vu et lui a fait une remarque. Il a balayé le plateau d'un revers de main et il est monté se coucher dans sa chambre.
Ah oui, il obéissait.
Donc, bébé boudeur,
c'était
quoi.
Toujours, oui, un petit garçon face à maman. Il avait quand même là 40 millions de personnes qui étaient ses sujets. Hein. Donc bon, c'est dire. Donc c'est la figure tutélaire qui comme ça, effectivement, les influence et leur parle toujours comme des petits garçons et qui se désolent de leur chamaillerie, en fait.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'elle est l'arbitre un peu de ces conflits, Madame Mère Laetitia ?
Alors, elle essaye, mais elle parvient pas vraiment. Mais néanmoins, elle prend position, effectivement. Alors, parfois pour Napoléon et parfois pour Lucien, dans la dispute qui va épouser Napoléon-Lucien, car Lucien a eu le tort de se remarier avec une veuve, alors que Napoléon voulait qu'il épouse une princesse. Napoléon, maintenant, ne veut plus que des alliances dynastiques avec toutes les cours européennes. Et Lucien est amoureux de cette femme et ne veut pas en démordre, alors surtout si Napoléon lui ordonne. Et donc, du coup, il y a une dispute homérique, et Lucien se réfugie en Italie, et Madame Mère prend son parti, et finalement, boude le sacre, et fera en sorte de ne pas arriver à temps à Paris, et arrivera avec 15 jours de retard.
Donc c'est pour ça qu'elle n'était pas présente à Notre-Dame pour le sacre, mais qu'on l'a quand même réintégrée dans le tableau de David.
Dans les souvenirs.
Oui. Oui, Napoléon a trouvé que ça ferait plus joli. C'est ce qu'il a dit à David pour le convaincre. En fait, il est intervenu pas mal hein, dans le tableau Napoléon. Au départ, le tableau devait représenter Napoléon se couronnant lui-même. Et d'après des recherches qui ont été faites récemment par un spécialiste du Louvre, au dernier moment, c'est le peintre Gros qui est venu voir le tableau et qui a dit à David que son Napoléon était raté, qu'il avait l'air un peu prétentieux, trop orgueilleux, etc. Mmh. Et il lui a soufflé, regarde le couronnement de Marie de Médicis par Rubens, tu vas voir, là c'est quand même autre chose. Alors du coup, il a modifié le tableau, et c'est à ce moment-là que Napoléon tend les bras pour couronner Joséphine, et si vous allez au Louvre et que vous regardez le tableau un peu de profil, vous voyez l'ancienne tête de Napoléon qui apparaît sous la peinture avec le temps, et donc voilà, ce tableau, il a une histoire absolument extraordinaire.
Mais il n'était pas déçu, Napoléon, de ne pas se voir en train de se sacrer lui-même ?
Il n'avait pas besoin de ça, en plus il était assez content, je pense que politiquement, pour lui, c'était un tableau très très important. Malheureusement, le tableau est terminé en 1808. En 1808, le petit Napoléon Charles, dont on a parlé tout à l'heure, est mort, l'année précédente, du croup. Et l'année suivante,
c'est
la tuberculose osseuse. Et l'année suivante, c'est Napoléon qui divorce de Joséphine. Et donc ce tableau qui a été accroché, je crois que c'était aux Tuileries ou à Fontainebleau, enfin peu importe, on va le rouler, on va le mettre dans une cave. Oui. Parce qu'évidemment, la nouvelle impératrice, tous les matins, elle ne va pas se lever en voyant l'image de Joséphine devant elle. Donc vous voyez, c'est un tableau qui est à lui seul toute une histoire.
Et Laetitia, donc la mère de Napoléon, Madame Mère, qui donc a été réintégrée dans ce tableau, on lui prête une phrase, je ne sais pas si elle l'a vraiment prononcée, pourvu que ça dure. Alors est-ce qu'elle l'a vraiment dit ça et à quelle occasion ?
Alors, on n'a pas forcément retrouvé, mais dans l'esprit, ça lui correspond bien, en tout cas, hein, de toute façon, effectivement, où elle s'est dit, finalement, un jour, je les récupérerai tous. Et c'est vrai, d'ailleurs, qu'elle les a récupérés tous, à part Napoléon qui était à Sainte-Hélène, mais elle les a récupérés tous autour d'elle à Rome, après la chute de tous ces aiglons, en fait, hein, et les a récupérés toute sa progéniture.
Il y a une lettre extraordinaire de Madame Mère après la mort de Napoléon. Elle écrit au gouvernement britannique pour récupérer son corps. Napoléon est resté 19 ans à Sainte-Hélène. Mmh. Cette lettre est absolument superbe. Enfin, elle vous tire les larmes parce que c'est la lettre d'une mère qui écrit donc au roi d'Angleterre, enfin ou au prince régent d'Angleterre, pour lui demander la restitution du corps de son fils. Et c'est fait avec. Elle a dû la faire calligraphier par quelqu'un d'autre car elle était, on va dire, relativement analphabète, Madame Mère, mais.
C'est une lettre
magnifique, c'est la lettre d'une mère. Et elle a toujours été la mère de ce clan. C'est-à-dire avant d'être Madame Mère de l'Empereur, comme on l'appelait à ce moment-là.
Alors, elle avait un demi-frère, Laetitia Bonaparte. Il s'appelait Joseph Fesch. Lui aussi, va jouer un rôle central dans le clan. Lequel ?
Alors, il joue, Fesch, c'est un personnage qui est assez peu connu, parce qu'on l'a d'abord peu étudié. Bon, c'est d'abord le plus vieux de la bande. Hein. Il est né 5 ans avant Joseph, donc 6 ans avant Napoléon. Et dans les jeux d'enfants...
C'est un oncle, c'est, mais qui joue un peu le
voilà,
grand frère,
c'est le demi-frère de Laetitia. Mmh. Hein, donc, il joue le rôle de grand frère, il joue un peu le rôle de chef de bande. On pense que c'est lui qui leur a appris un peu à écrire, qui leur a un peu appris le catéchisme, etc. Donc, il devient prêtre. Et puis, pendant la Révolution, bien qu'il croit en Dieu, Napoléon disait toujours que c'était un des problèmes qu'il avait avec Fesch, c'est qu'il croyait en Dieu. Fesch quitte la prêtrise parce qu'il n'est pas bon d'être prêtre pendant la Révolution. Mmh. Il va faire du commerce pendant plusieurs années en cachant bien qu'il est prêtre. Hein. Et puis, au moment où il va reprendre la prêtrise, c'est 1802, juste après la signature du Concordat, il est nommé dans la foulée évêque, archevêque et cardinal de Lyon. Et donc il va terminer comme un grand ecclésiastique. Il va s'opposer à Napoléon au moment des conflits avec l'Église. Bref, il va avoir un rôle. Alors Napoléon à la fois le rudoie, hein, comme bon il rudoie à peu près tout le monde, mais il a une forme de respect pour ce tonton Fesch, si l'on veut, ou oncle Fesch, comme on l'appelait.
Qu'est devenue cette famille après la chute de Napoléon? Est-ce que les frères et sœurs ont gardé une partie de leur richesse? Qu'est-ce qui leur est arrivé en fait?
Une grande partie, oui, ils ont conservé pas tout parce qu'ils en ont perdu. Ils se sont beaucoup disputés après, hein, parce que plus ou moins Napoléon avait fait, enfin il y avait eu des échanges, ils étaient donnés des choses, etc., échangés, et ils se sont réclamés, ils se sont même presque fait des procès. Enfin, l'argent c'est une chose sacrée chez les Bonaparte, hein, c'est touche pas au Grisby, hein, donc c'est un sujet de différent qui est très prégnant chez eux. Néanmoins, ils vivent à peu près tous confortablement. Hein.
Alors il y a une dernière histoire qu'il faut prendre le temps de raconter. Là aussi, c'est une découverte dans ce magazine Historia consacré au clan Bonaparte. Alors là, on avance dans le temps. C'est un descendant des Bonaparte qui a eu une carrière aux États-Unis. Quand et quelle carrière?
Là, il va falloir s'accrocher un tout petit peu parce
on a deux minutes.
Voilà, on parle de Jérôme Bonaparte. Alors, avant d'épouser une princesse allemande, Jérôme Bonaparte s'est marié sans l'autorisation de sa mère avec Elisabeth Patterson, une américaine. Il était marin et bon, une femme dans ce port-là, en tout cas. Et ils ont un enfant. Napoléon l'oblige à divorcer. Il divorce d'ailleurs pendant que sa femme est enceinte et donc elle donne naissance à un enfant qui va avoir des enfants et qui va être autorisé à s'appeler Bonaparte Patterson au moment du Second Empire, donc après 1852. Ouais. Et un de ses enfants, Charles Bonaparte, va devenir homme politique américain. Ils ont vécu aux États-Unis, ils sont américains, et il va devenir secrétaire à la marine, puis secrétaire à l'intérieur, on va dire, du président Theodore Roosevelt. Et c'est à l'occasion de ces fonctions-là qu'il crée le FBI. Et d'ailleurs, même les Américains le cachent un petit peu, parce que pour eux, c'est J. Edgar Hoover, évidemment, qui il a développé le FBI, mais le créateur, avant la Première Guerre mondiale, c'est Charles Bonaparte, donc qui est encore un Bonaparte. Mais les Bonaparte ont eu ensuite des destins, il y en a un peu partout, hein. Il y a eu beaucoup de filles chez les Bonaparte, donc il y a du Bonaparte un petit peu partout. On disait tout à l'heure hors antenne, Joseph, l'aîné de la famille, qui est resté l'aîné toute sa vie, il s'installe aux États-Unis après la chute de l'Empire. Il y vit 25 ans. Il est riche, à millions. C'est vrai, c'est le cas de le dire. Et un million à l'époque, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mmh. Il va vivre comme un nabab aux États-Unis. Les meubles de Joseph Bonaparte, certains des meubles, meublent la Maison Blanche aujourd'hui. Ses tableaux, il a donné des tableaux à des musées à Philadelphie, etc. Il est connu. Il y a même un livre qui dit que son fantôme hante les bords du Delaware à la recherche de ses amours perdus. Il est vrai qu'il en a eu beaucoup, donc il a dû en perdre quelques-uns.
On termine là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux. Ce dossier est à lire dans le magazine Historia en partenariat avec RTL, le clan Bonaparte. On vous le conseille.
Vous écoutez RTL.